Petit préambule avant l'épisode 91. Comme cet épisode-là était très chargé, nous avons décidé, lors du montage de l'épisode, de l'éclater en plusieurs, plusieurs épisodes distincts pour en faciliter l'écoute. Ainsi, l'épisode 91 étant celui-ci, le suivant sera l'épisode 93 et si le besoin est, jusqu'à l'épisode 94 pourront être les épisodes qui vont regrouper ce lot de nouvelles-là auquel on a eu énormément de plaisir à discuter. D'ailleurs, ça se peut que ça devienne l'habitude d'éclater les épisodes de cette façon-là et également de faire un petit préambule au début de chaque épisode que nous avons. C'est également c'est très important d'écouter les épisodes dans l'ordre pour ce bloc-là, puisque parfois les références qui sont faites dans des éléments plus loin, donc dans un épisode subséquent, soit se référence à un épisode précédent, donc, puisque c'est un grand continuum d'enregistrement que nous avons eu. Il a été mentionné également dans l'épisode que l'épisode 89 n'était pas disponible encore. C'est une erreur de ma part, puisque effectivement l'épisode 89 était disponible au moment de l'enregistrement. J'avais juste mal noté mes éléments sur ma feuille de notes. Et finalement, dans les schémas de l'espoir, nous avons oublié de mentionner que le code rabais du Sécur qui était caché dans l'épisode 75, il y en a juste un des deux qui a été trouvé, l'autre est encore là, il n'a pas été trouvé. Et nous avons également diffusé plusieurs autres codes rabais dans les différents éléments. Pour ceux qui voudraient se prévaloir de ce code-là, autant pour ceux qui sont déjà inscrits que ceux qui ne sont pas encore inscrits. Merci, bonne écoute. Bienvenue à la French Connection, épisode 91. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde.
Patrick.
Salut.
Steve.
Bonjour à tous.
Et Damien.
Bonjour la France.
Et pour tous ceux qui ne savaient pas mon nom, ben c'est Nicolas Lé qui anime. Puisqu'on m'a dit clairement que personne n'avait associé le fait que c'était moi qui animais.
Donc, c'est même pas toi qui n'aimais, essaye pas.
Donc, cela étant, Shameless Plug, Shawisek, on en profite encore pour faire un autre tour pour leur dire qu'ils existent. Allez voir leur site web, c'est dans nos show notes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les show notes sont sur la page web et dans votre lecteur de podcast, vous êtes capable de voir les contenus de toutes les URL qu'on fournit. Le 19 au 21 mars, les événements des affaires sur la cybersécurité où Damien et Steve présenteront des sujets fort intéressants. Le 25 mars à Lille, il y aura le Cyber Monday, conférence grand public sur la cybersécurité. Pendant que Damien fait des folies à l'écran, parce qu'il ne veut pas me donner un coup de main pour m'expliquer c'est quoi. Ensuite, le 28 mars, Québec Sec, nous enregistrons le 100e épisode de la French Connection. On peut à être présent avec nous. Mais dans tous les cas, venez nous rejoindre. Ça va être très plaisant. On va discuter en public, micro ouvert avec les gens qui sont là. Fait que ça va être super intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Sécur événement organisé par Québec Numérique, où d'ailleurs Patrick et Steve seront présents pour donner des conférences pendant la même conférence, mais chacun dans leur track à eux autres. Donc, ça va être super intéressant aussi.
Chacun dans notre coin, oui.
Oui, chacun dans leur coin.
Reste dans ton coin.
Pas de chicane, les amis. Donc, commençons avec les nouvelles, parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette semaine. Commençons avec Damien. Il y a plus de 150 millions d'informations de Français dans les mains de pirates.
Il va trouver son micro, c'est incroyable. Je lâche pas mon Damien.
Ben oui, mais j'appuie sur le bouton, ça fonctionne pas!
Donc, comme je vous le disais, pendant que vous n'écoutiez pas, non, plus sérieusement, ouais, non, mais ce qui est fou, c'est que depuis une semaine, vous connaissez ma passion, hein, pour la visite du Black Market. Et, ben, depuis une semaine, ici, en France, on a deux pirates informatiques qui ont décidé, et je vais être très clair avec vous, de faire les soldes. Ils sont en train de diffuser à la vente des bases de données qu'ils ont piratées depuis, pour le plus ancien 2017, pour les plus récents, à quelques semaines, des bases de données, donc de différentes boutiques, de différents sites internet qui ont véritablement pignon sur web et pignon sur rue, hein, c'est vraiment des entreprises très importantes. Et en additionnant l'ensemble des informations qu'ils sont en train de vendre, eh bien, c'est 150 millions de personnes. Sachant qu'en France, on est un petit peu plus de 60 millions, ça veut dire que les gars, ces pirates-là, ont peut-être deux informations par français dans leurs mains. Alors, c'est vendu Alors là, j'ai dans les yeux, par exemple, une base de données de 90 millions de Français. Ils vendent ça 300 euros. C'est strictement rien du tout. Hein. Ça fait, si je me trompe pas, quelque chose comme 400 dollars canadiens. Bref, je connais plus d'une société marketing qui achète beaucoup plus cher une centaine de milliers de mails. Eux vendent de tout, hein, donc les mails, les mots de passe, les numéros de téléphone. C'est devenu un véritable problème. Et surtout, ce qui est particulièrement fatigant à mon goût, c'est qu'il y a énormément de sociétés qui m'ont contacté et qui ont fait de manière totalement transparente en expliquant, ben voilà, il y a eu un problème. Ici en France et en Europe, on a le RGPD, donc ils n'ont pas eu le choix. Mais on a aussi des sociétés qui, après avoir lu ce que j'avais divulgué sur mon blog, ou envoyer, comme si de rien n'était, un petit mail à leur client en disant « On a détecté une faille, ne vous inquiétez pas, elle est vieille, tout va bien. » What the fuck? Non, ça va pas bien. Les gars, il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone, votre mail, vos mots de passe, peut-être les messages en interne. Non, ça va pas. Leur identité et leur réputation est définitivement perdue. Elles se retrouvent dans des mains, pardon du terme, de véritables enfoirés qui vont faire de l'escroquerie, vont faire du chantage, vont tenter des pièges peut-être sous votre nom. Donc non, prenez ça au sérieux. Arrêtez de dire « on a détecté une faille ». Non, tu n'as rien détecté du tout. Depuis 3 ans, des gens sont en train de piller tes clients et tu n'es pas au courant. Le client maintenant est au courant, il fait quoi? Eh ben, il claque des fesses parce qu'il ne sait pas ce qui va lui devenir. Alors là, il y a un petit silence parce qu'ils sont tordus de rire. Parce que eux, quand ils me donnent des gros mots en québécois et que je ne comprends rien, eh ben, claquer des fesses, tout le monde le comprend.
Mais Damien, moi j'avais juste une question là-dessus. Est-ce que c'est toi qui as découvert ce leak-là?
Oui, oui, c'est moi qui les découvre. Ben, je vais être très clair avec vous. Hein. J'ai un petit peu plus de 5000 sites pirates, IRC et Black Market que je surveille par différents moyens. Et donc, moi, j'ai des moyens d'avoir des informations sur ces sujets-là. Et la semaine dernière, c'était pendant mes visites. Hein. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que ce sont des black markets, entre guillemets, que je vais appeler publics. Alors certes, il faut utiliser Tor. Oh mon Dieu, c'est très difficile à utiliser. Oh là là, il faut rentrer dans le site. Ils ne demandent même pas de login et de mot de passe. Et les mecs vendent ça comme kilomètres. Je vais être honnête avec vous, les copains. Hein. Mais moi, je trouve intolérable qu'aujourd'hui, des spécialistes de la cybersécurité ou voire même des entreprises qui ont pignon sur web ne fassent pas une veille, même dans le black market. Je leur ai jamais dit d'acheter de la bœuf, hein. Je leur ai jamais dit d'acheter la dernière arme à la mode, je leur ai jamais dit d'acheter des faux billets. Non, juste de regarder, juste...
Puis c'est pas juste ça, les outils existent, c'est open source, c'est public, c'est gratuit, tu payes un bouton, tu l'installes, une demi-heure après, ça fonctionne. Non? On a eu des conférences il y a 2-3 ans ici de certaines organisations qui ont ça en place. Ils l'ont, eux ont même décidé, je pense, de le monter par eux-mêmes, mais ils auraient pu aller sur GitHub puis le downloader, là.
C'est ça. Alors, je vais être honnête aussi, c'est qu'il y a certains VIP, les semi-privés et les privés, il n'y a que l'humain qui va pouvoir rentrer dedans. Il n'y a que l'humain qui va regarder, qui va malheureusement, effectivement, perdre du temps ou en gagner pour repérer, lire, découvrir, etc. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de mentir aussi à ses clients en leur disant « Bon, on a vu une petite faille, c'est pas bien grave, on va changer tous vos mots de passe et youpi, la vie est repartie. » Non, les licornes et les bisounours, c'était avant, hein, c'était il y a 40 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un pirate a piqué votre base de données avec les contenus, c'est fini. Imaginez psychologiquement l'internaute qui va se rendre compte qu'il va recevoir des mails d'escrocs. Ils vont peut-être payer parce qu'ils vont avoir peur. Les téléphones portables peuvent clairement recevoir des données malveillantes. Simplement l'usurpation d'identité. C'est ce que je vais montrer d'ailleurs à Montréal, là au mois de mars, où je vais faire une démonstration de cette base de données qu'on vole, on va dire, le lundi à 15h et comment le lundi à 16h, elle a été revendue, réutilisée, et on finira avec des vrais faux papiers. Donc là, il y a un moment, il va falloir vraiment que tous ces gens ouvrent les yeux et ne se disent pas obligatoirement « Oh, ce n'est qu'une petite base de données, c'est pas bien grave. »
C'est effectivement très inquiétant, puis ça ne fait qu'accentuer la perte d'érosion de la confiance que des gens peuvent avoir face à l'Internet et aux différentes compagnies qui font un business. Donc, c'est un peu terrible pour l'ensemble. Puis, en tant qu'à parler de perte de confiance, on va comme glisser vers des attaques qui ont eu lieu, entre autres, une firme de Montréal, en tout cas, l'association d'aviation à Montréal, basée à Montréal, a dissimulé des attaques qui ont eu lieu dans leurs infrastructures.
Et ça, on parle de l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale, qui ont été en pénétrés et ont pu, à ce moment-là, se faire... aspirer quelques informations. Et ça fait 2 ans de ça qu'ils ont caché cette attaque-là qui serait reliée au groupe Emissary Panda, qui est un groupe à caractère chinois qui va avec des acronymes parallèles comme Threat Group 3390, TG 3390, des Bronze Union. Certains l'ont associé en PT-27, mais ça reste encore à prouver, ou bien Lucky Mouse. Ce genre de groupe-là, c'est pas un groupe étatique, mais bien un freelancer, autrement dit, qui va faire en sorte des contrats pour le gouvernement chinois, parce que généralement, ça va être l'unité 61398 du gouvernement chinois, le deuxième bureau de reconnaissance technique, qui va faire ce genre de travail-là, de vol de secret industriel. Alors, procéder avec des contractuels comme ça, mais évidemment, c'est une question d'imputabilité, puis ils peuvent s'en sortir à bon compte. Donc, pourquoi aller chez l'OACI? Pourtant, c'est une organisation qui est quand même assez, comment on peut dire, sans menace, right? Mais l'OACI, ça touche quoi? Ça touche tout ce qui est aviation. Et qui parle avec l'OACI? Ben, regardons ça à Montréal, on a quoi? On a Bombardier et d'autres fabricants importants de pièces aéronautiques. Et j'en serais pas surpris que c'était juste peut-être une passe pour être capable d'aller justement jusqu'au fond des choses. Mais il reste toujours bien que ça en est inquiétant. Et ce que j'ai trouvé vraiment plate, ou pour pas dire décevant, c'est l'absence de couverture médiatique approfondie. OK, cette semaine, on parle de la dernière semaine de la fin février, il y a eu quand même beaucoup d'actualités, mais il reste toujours bien que c'est une nouvelle d'importance où ce qu'une organisation internationale de ce calibre-là a absence de cybersécurité. Parce que depuis les deux dernières années, depuis 2016, disons, rentre en troisième année, comme on peut faire le calcul, ils sont toujours à la recherche de spécialistes pour être en place et faire un travail sérieux de recommandations et d'émettre des lignes directrices une fois pour toutes pour que l'aviation, le domaine de l'aviation, soit mieux balisé dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est ça qui fait peur. Donc, chacune des organisations, des aéroports, etc., mais surtout, ce qui me préoccupe, c'est encore une fois le système de billetterie qui est encore à la laisser aller. Et quand on parle de système de billetterie, c'est des systèmes mondiaux, ce qu'ils vont à ce moment-là, ils plantent au minimum 3-4 fois par année et ça laisse encore une fois des traces indélébiles dans l'économie de la planète. C'est ça qui est un peu inquiétant et choquant. Puis je crois pas demain matin qu'ils vont régler ça, c'est clair. Mais encore une fois, la sécurité par l'obscurité n'a pas sa place, surtout pas cacher des événements majeurs comme ça. Et il faut qu'il y ait, surtout pour un organisme public, il me semble, les Nations Unies, ça doit être public en quelque part, mais je me souviens pas que ça soit privé, mais je sais pas les gars, que vous en pensez de ce genre d'approche-là.
Non, tout à fait, puis l'un des points qui a été élevé sur Twitter aussi, c'est que d'autres compagnies d'aviation ont été vraiment pas contents de ça, parce que c'est, comme tu as expliqué, c'est une porte vers d'autres entreprises, puis en plus... quand tu lis certaines phrases de l'article, puis il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça, c'est pas une attaque qui était avancée, c'était une porte grande ouverte, aucune sécurité, il n'y a aucune équipe de sécurité dans cet endroit-là, c'était c'est ridicule en gros, là. Puis tu as raison, il n'y a aucun média qui en parle, puis c'est une atteinte qui peut venir vers des méga grosses attaques, leaks ou autres en termes d'aviation, là.
Et oui, mais pour le meilleur exemple là-dessus, Patrick, là, c'est vraiment ça va être social engineering, parce que qu'est-ce qui n'est pas plus crédible que l'OACI qui écrit la compagnie ABC Aviation Incorporée?
Ils sont comme le man in the middle de toutes les compagnies d'aviation, c'est ça la joke.
Ben oui. Ben, c'est là que c'est
pour ça que j'en parle. Les données dans les courriels de ces personnes-là, ça doit être incroyable.
Tout à fait. Exactement mon point. Fait que c'est là que ça. Il y a encore une mécompréhension. La portée, puis là-dessus, Patrick, tu vas en parler tout à l'heure, il y a une mécompréhension de la portée des moyens techniques que l'on a aujourd'hui, que les gens utilisent, et ils n'utilisent que petit pourcentage de pleine capacité. Et quand il y a des organisations qui l'utilisent à pleine portée, à pleine capacité, les gens sont ébahis devant ça. Et ça, c'en est un autre exemple, parce qu'ils ne voient pas vraiment ce qu'on vient de décrire. Donc, puis je le vois dans le sens que je regardais les appels d'offres et surtout les demandes. Ça fait quelques années qu'ils demandent des professionnels comme nous pour aller travailler à l'OACI. Évidemment, ils demandent des gens avec des maîtrises, des doctorats et des toutes sortes de documentations scolastiques, excusez le terme, mais je ne veux pas diminuer en quoi que ce soit les diplômes, mais il reste toujours bien qu'ils demandent des connaissances académiques impossibles. Donc, ça réduit la quantité de personnes potentiellement.
Sûrement pour des rôles qui n'en ont même pas de besoin.
Exactement mon point.
Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Ça, c'est un problème majeur dans l'industrie, là, mais...
Oui, c'est un très bon parallèle. Et j'ai vu une demande d'emploi récemment. Je ne me souviens pas si c'était au gouvernement ou une entreprise privée qui demandait justement un doctorat pour en faire de la cybersécurité. Et j'en connais très peu, J'en connais juste une personne, en fait, qui est en train de finir son doctorat en cybersécurité, mais le restant du marché, il n'y en a pas. Et ça donne quoi si la personne n'a pas l'expérience du terrain avec un doctorat, être capable de faire de l'application de la cybersécurité? Je m'excuse, mais il manque quelque chose à l'état.
Non, exact. Un doctorat, tu es supposé de faire de la recherche, tu n'es pas supposé d'appliquer ça voilà. En technique en bas de l'entreprise. Là. C'est deux mondes totalement différents. Les deux sont bons, là, mais ça ne sert pas. Là.
Tout à fait.
Oui, il y a un autre élément qui me perturbe, c'est qu'on n'arrête pas de montrer des dangereux pirates, voire des soldats à la solde d'un pays. Bon, désolé pour nos auditeurs, hein, je trouverai le moyen de vous diffuser, on le diffusera peut-être d'ailleurs sur Twitter, cette image. Là, je montre à nos camarades un black market, au moment où on se parle, qui est en train de dire, voilà, je vous refile des sites internet, allez-y, tapez dedans, les failles sont là. Autant dire qu'on n'a pas besoin d'être une cyberarmée chinoise de la Corée du Nord ou de la Russie pour commencer à se foutre le bordel, pardon du terme. Hein, mais il y a aujourd'hui, dans des black markets, des gars qui offrent des échantillons de sites internet. Ils peuvent être des ministères, ils peuvent être des aéroports ou ils peuvent être un simple petit blog. Mais là, par exemple, le gars a décidé de fournir, dans la joie et la bonne humeur, une vingtaine de sites basés à Taïwan. Imaginez si un gars se dit « Tiens, je vais me faire passer pour la Chine, pour des dangereux pirates chinois, et je vais attaquer Taïwan. » Voilà, le problème, c'est que derrière, on est incapable de savoir qui fait quoi. Et que, pardon, hein, mais j'ai aussi beaucoup de collègues qui n'y connaissent pas grand-chose et qui reprennent très facilement les communiqués de presse envoyés par des sociétés de cybersécurité et qui ont très vite fait de montrer des ennemis qui aujourd'hui sont très compliqués véritablement à savoir s'ils sont existants.
Ouais, puis moi, l'aspect qui me trouve le plus dans la nouvelle pour l'Organisation de l'aviation, c'est que tout le cover-up qui a été fait me dérange davantage que la fuite elle-même.
Oui, j'avoue.
Parce ça amplifie que,
tout, en fait, bizarrement.
C'est grave, parce que puis, selon les articles qui ont été diffusés, là, puis on n'a aucune information privilégiée, cela me dérange plus. C'est plus la mauvaise gestion de l'entreprise ou que de l'organisation que même que la capacité de résoudre le problème. Les rapports qu'ils ont reçus leur disaient clairement quoi faire. Ils ne l'ont pas fait. Puis ils ont décidé de réintégrer les gens qui sont eux-mêmes à la source du problème.
Mais Nicolas, toi qu'on est les cinq ici, puis Ben, je vais te le laisser juste après, on est les cinq ici que chacun dans nos sphères de travail, on en rencontre sur une base régulière, pour ne pas dire hebdomadaire, des situations comme ça, où l'incompétence, elle est toujours padée. Et ils vont mettre la faute sur cinq petites affaires, sauf comme tu dis, mettre le doigt sur le bobo, puis régler le bobo, autrement dit, trouver le symptôme, puis régler le symptôme. Vince.
Ah, c'est juste pour ajouter sur ce que Nicolas vient de dire, là, l'amplitude que ça a pris avec le pseudo cover-up, là, le spécialiste en sécurité, je pense que c'est James Wan, à ne pas confondre, ben celui, je pense, qui a fait rapide et dangereux 1, 2, 3, 4, 5, X, mais bon. Pour ceux qui ont lu l'article, Nicolas, il y a eu comme des scénarios pendant des mois et des mois où il savait l'info. Il diffusait, il noyait, il disparaissait en vacances, il disparaissait en maladie, il revenait, etc., etc. Au final, je sais pas, le dernier article que j'ai lu cette semaine, il est toujours à l'emploi de l'OACI. Pourquoi? On n'a pas de, j'ai pas lu d'éléments supplémentaires qui dit que, au final, le problème était là, M. Wan a raison, etc. Alors, je comprends que c'est une sommité. Avez-vous vu les certifications que ce gars-là a? Ça tient sur une page au complet, c'est épouvantable. Mais t'as raison, Nicolas. C'est pas du violon qu'on a joué autour de cette histoire-là. C'est de la harpe. 83 cordes.
Puis ce que tu dis est bon. En plus, c'est pas juste une histoire de cover-up. C'est sur des mois. C'est incroyable. Tu sais, s'il arrive quelque chose la semaine passée, puis là, on l'arrange cette semaine. C'est, OK, c'est mauvais, mais ça fait 6 mois que c'est comme ça. Il y a de la mauvaise intention là-dedans. Oui, Steve?
Non, je qualifiais tout simplement l'overall, l'action, la nouvelle comme étant un fail côté gestion, côté sécurité. Puis l'OACI, désolé, il va y avoir d'autres hacks. C'est la seule conclusion.
Ah, parce qu'ils n'ont rien fait encore. Là.
Voilà.
Là, évidemment. Bon.
C'est très malheureux, mais on va continuer.
À la prochaine, oui, c'est ça.
À la prochaine, justement, on continue dans les différentes attaques. Là. C'est en ce cas-ci, c'est une salle d'éducation qui a été piratée.
Oui, mais ça aussi, on tombe un peu dans un concept de peu d'informations parce que l'article qui est sorti a à peu près 10 lignes. Ça dit que deux suspects ont été arrêtés pour avoir piraté le ministère de l'Éducation pour obtenir des informations sur à peu près 200 professeurs. Et ils ont de l'information sur plus, là, mais ils ont utilisé l'info sur 200 personnes, des professeurs, pour faire des vols d'identité et ensuite, genre, créer des fausses hypothèques, des cartes de crédit, etc. pour faire des vols. Mais il n'y a rien d'autre. Ça a passé inaperçu. C'est pas dans les nouvelles vraiment beaucoup. J'ai trouvé l'article via des alertes que j'ai, mais je ne l'ai pas vu manuellement dans les feeds normales. Donc, c'est en train de passer inaperçu, puis ça serait le fun d'avoir plus de détails. Malheureusement, on n'en a pas. Oui, Steve?
Ça va encore une fois dans la direction du ministère de l'Éducation, parce que depuis les 24-36 derniers mois, on a vu beaucoup, beaucoup d'incidents de sécurité dans les écoles, les organisations, les commissions scolaires, à l'effet que les professeurs, les étudiants n'ont pas accès au système informatique, ne sont pas capables de réaliser le début d'année, les systèmes administratifs aussi, tout ça par des ransomware, mais aussi après ça par des brèches sur la mauvaise entretien, puis que les écoles, ça se veut toujours être un lieu ouvert pour le passage, l'échange d'informations. Je suis toujours pour ça. Sauf que il y a un minimum qui est à couvrir. Et oui, là-dessus, encore une fois, bon, il y a eu un changement de gouvernement aussi récemment, mais il reste toujours bien qu'il y a certaines entités qui sont dans le ministère qui n'ont pas fait le due diligence, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'appliquer les règles raisonnables pour être capable de protéger le tout et de se prémunir contre des futurs incidents similaires. Et je trouve ça encore une fois dommage, j'y vois encore du laxisme, mais en même temps, si la SQ ont fait à ce moment-là un bon coup, ben, Christy, il faut le dire.
Tout à fait. Mais c'est ça, il y a quand même, ça a comme passé inaperçu en plus qu'ils ont réussi à prendre les criminels.
Oui.
On n'entend pas parler le bon coup, mais on n'entend pas parler le mauvais. Puis qu'est-ce qui s'est passé officiellement dans les deux sens?
Ben, j'ai l'impression que ça ne fait pas trop peur au monde. Mais Christy, j'en parle combien de fois par mois qu'il y a des incidents comme ça qui arrivent, mais il faut m'amener faire le lien. Il est arrivé l'incident à telle date, puis voici, on a pogné bandit telle date, puis on a arrêté que ça se fasse. Maintenant, messieurs, dames, portez attention, ceux et celles qui ont été impliqués dans le vol d'informations de telle date, il se pourrait que vous ayez du spam et qu'il y a des sollicitations téléphoniques et ou courriers électroniques qui arrivent à votre porte, à votre PC. C'est la conséquence. C'est là l'éducation se fait envers les gens. Les gens ne sont pas dupes, ils le savent, mais quand on est capable de servir justement la cause et effet, je crois qu'ils vont être, ils vont apprécier davantage comment est-ce que ça se passe dans leurs environnements pour après ça être mieux informés qu'est-ce qu'ils doivent faire pour prévenir ce genre de situation.
Alors, c'est peut-être aussi parce que les enquêtes sont toujours en cours. Le problème, c'est qu'on est souvent aussi dans des cas d'actes de piratage qui sont à l'échelle internationale. Peut-être que les enquêtes continuent et que donc, du coup, le fait d'un procureur, je pense ici, d'un juge ou des autorités veulent bien communiquer un tout petit peu sur le sujet, histoire d'eux, mais ne pas trop en dire parce que peut-être ça continue de rechercher.
Dans ce cas-là, excuse-moi.
Mais agir de cette façon-là, Damien, c'est pas un peu perverti, c'est pas un peu pervers. C'est vraiment un guichet, là. Mais en fait, c'est mon opinion. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que quand une enquête est en cours, t'es aussi bien de contenir. De passer le plus possible sous le radar. Puis quand tu as le plus d'informations, là, tu diffuses. Là, comme tu viens de dire, c'est vrai, tu diffuses un petit peu ta guiche. Il y a du monde comme nous autres qui est à l'affût de ça. On en veut plus, là. Puis c'est une maudite belle méthode pour ensuite de ça camoufler, désinformer, puis interpréter ça de la façon qu'ils veulent. En fait, ils peuvent manipuler en fait, la façon dont on comprend le message.
Ouais,
moi, je trouve que c'est pervers.
Petit morceau à petit morceau, ça disparaît dans les nouvelles, dans le cloud tellement, pas de le cloud informatique, là, mais dans le nuage, l'écho de toute l'Internet, ça va disparaître. C'est dommage.
Mais en tout cas, dans tous les cas, puis ça, je reviens sur le point de Steve, c'est important que la police fasse promotion bons coups qu'ils ont fait parce que il y a toujours un aspect dissuasif dans tout ça. Et s'il n'y a pas l'aspect dissuasif, les gens vont penser qu'ils peuvent faire ça sans risque. Donc, ça va leur créer une forme d'impunité. Donc, maintenant qu'on est capable de les attraper vraiment, mais là, ces jeunes-là ou ces gens-là vont courir un risque. Donc, ils vont plus agir sous le seul fait qu'ils sont seuls dans leur sous-sol. Ils vont jamais attraper. Donc, ça va jusqu'à un certain point atténuer les choses. Et donc, les gens qui sont moins tentés à aller moisir en prison, ben vont ne pas agir de cette façon-là à ce moment-là.
Ouais.
Ça va être très important.
Et ça permet de rappeler aussi qu'il faut déposer plainte. Il ne faut pas avoir peur, en cas de problème, d'aller voir les autorités. Il faut y aller. Donc, le fait de déposer plainte, la police va obligatoirement agir. C'est super important de le rappeler, pas se dire « Ah ben non, ça m'est arrivé, de toute façon, ils sont, on peut pas les attraper, les pirates. » Maintenant, il commence à y avoir des moyens, des lois et la justice qui est quand même là pour nous protéger.
Ouais, on se sent ça. Puis pour avoir été, avoir vu le modèle français, puis connaître bien le modèle québécois et canadien, je trouve que la gendarmerie française est un peu plus proactive pour aider les petites et moyennes entreprises à les aider à se sortir du pétrin. Donc, on manque un peu cet aspect-là ici, ou en tout cas, du moins, on ne fait pas la promotion suffisamment fort pour qu'on sache que ces moyens-là sont à la disposition des petites et moyennes entreprises. Donc, il y aurait peut-être une zone à mieux couvrir, disons, pour nous, du moins en Amérique du Nord, pour être davantage proactif et mettre ces gens-là, sauvez-vous, plus rapidement. OK, donc ça fait le tour de cette nouvelle-là spécifiquement. Là, je me suis tombé par surprise, ma gang de coquins. On va continuer dans les attaques. Les cyberattaques, d'ailleurs, sont un des vecteurs de croissance les plus importants. Il est évalué à 6 trillions de dollars en 2021 comme étant l'effet de ce problème-là.
Et oui, c'est quand même une nouvelle qui est datée du mois de décembre et c'est un chiffre quand même astronomique de 6 000 milliards de dollars par 2021. Qu'est-ce qui va propulser à ce que ça soit un chiffre si gros en termes de retombées du cybercrime? Ben, c'est la prolifération des bébites IoT un peu partout. Quand je dis bébites, là, c'est vraiment des cossins, des n'importe quoi qui sont distribués sur le marché. Propulser, catapulter avec le déploiement du 5G, je veux dire, n'importe quoi, Star va avoir ce vœu d'avoir une capacité de communication. Et par ce moyen-là, va avoir à ce moment-là, évidemment, une rapidité qui va lui être confiée. Qui dit plus rapide, dit hacker plus vite. Donc, c'est comme ça qu'on arrive avec des chiffres. Et je crois que c'est un chiffre conservateur, en toute honnêteté, parce qu'on sait très bien, lorsqu'il y a du crime informatique, lorsqu'il y a des gens, des organisations qui se font pénétrer, qui se font extirper d'informations, c'est pas tout le monde qui est fier de ça, évidemment, et donc ne le rapporte pas. Contrairement à ce que Damien a dit, il faut les rapporter. Que ce soit, mettons, au centre antifraude qui vont faire que du cumul statistique, de rapporter ça au service policier pour qu'il y ait enquête, certainement. J'ai déjà vu des entreprises cotées à la bourse que sciemment, ils n'ont pas rapporté la faille, les failles plutôt, et l'intrusion, même les intrusions qu'ils ont subies, de peur de se faire décoter et perdre des cotes en bourse. Je crois que tout le monde, même ici à cette table, ils ont déjà tout vu ça. C'est ça qui fait peur un peu. Donc, dans la normalité des choses, tous les règlements sont en place. Tout le monde dit oui, on va contribuer. On va protéger nos affaires, mais jusqu'à temps que le pire arrive. On l'a vu récemment aussi, il y a eu Marriott, qui est quand même peut-être pas une binerie, mais il reste que plus c'est gros des fois, plus c'est appelé à avoir des failles. Et d'autres situations où il y a des serveurs qui sont simplement laissés dans un coin. Et je pense à la deuxième banque d'Inde, serveur avec les clients, la liste des clients de 500 millions de clients, pas juste, pas moins, et qui a été laissé dans un coin, pas de mot de passe, rien de ça. Il y en a un autre aussi, à savoir récemment, qui a juste fait le lien avec une autre nouvelle que je voulais jaser aujourd'hui. Même chose, un serveur qui a été laissé dans un coin où il n'y a pas de mot de passe et tout le monde dit, ah, ben, c'est normal, on l'a laissé là. C'était la liste des clients à risque, 2,4 millions de clients à risque à Dow Jones. C'est quand même pas rien. Je veux dire, si on est capable de se mettre la main sur des informations quand même intéressantes comme ça, je veux dire, c'est quoi? Donc, quand on arrive encore une fois à qualifier, à quantifier le crime économique par informatique, je veux dire, c'est là que 6 000 milliards, donc 6 trillions, ça commence à être un gros chiffre, mais en même temps, la technologie est partout. Et c'est comme ça que je crois qu'on risque de courir à nos fins si les gens, les organisations et surtout les gouvernements ne mettre pas les efforts en place pour être capable de pallier au manque et de légiférer davantage. Parce qu'il y a une des affaires que je vais peut-être me répéter encore une fois, mais si on est capable de certifier qu'il y a des lumières de Noël, il faut qu'il y ait une certification d'une organisation neutre pour dire que les lumières prendront pas feu, ben pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec du code informatique et dire que la sécurité n'est pas appliquée à ce code informatique?
Alors, on le voit en aviation principalement, ce genre de certification-là où c'est exigeant. Le revers à ça, et tout le monde, les détracteurs vont dire que c'est excessivement dispendieux parce que les cycles de test sont très longs. Donc l'équilibre, comment doit-il être placé? Parce qu'on veut un côté pas enlever l'innovation, mais de l'autre côté, on veut quand même préserver la sécurité des gens.
on est peut-être rendu là dans le monde des TI, avec, peut-être on atteint la maturité suffisante pour commencer à avoir une réglementation claire, précise et complète, au même titre que la chose en construction, l'aviation, plusieurs autres secteurs qui sont maintenant matures, qui ont été matures bien avant. Et oui?
Tu as mentionné construction, je veux dire, on en a parlé il y a quelques podcasts. Hacker une grue sur un chantier de construction, une grue qui déplace des centaines de tonnes de matériel par jour, qu'on soit capable de prendre un RF à distance, capable de hacker à radio, puis le code n'est pas vérifié pour qu'il n'y ait pas de protection. Ça l'est pour moi l'éveil pour dire que maintenant, là, il y a des vies qui en dépendent, puis c'est quoi, là? Ça va prendre encore une fois des dizaines de morts avant qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Ça va être un coroner qui va recommander ça. Voyons donc.
Cet élément-là est très fascinant, mais en tout cas, on le retrouve dans le médical aussi. C'est-à-dire que le milieu de la construction, le milieu médical est très, très réglementé. Par contre, l'usage de fonctions informatiques dans cet environnement ne l'est pas. Et ça crée une espèce de zone grise qui est tout à fait fascinante.
Oui, ça roule sur du XP encore. C'est des boîtes noires qui sont vieilles. C'est louche. Mais tu sais jusqu'où que tu veux mettre la certification en même temps? Tu veux-tu que toutes les boîtes de développement qui font des sites web non sensibles aient une certaine certification? C'est-tu du bancaire, médical, etc.? C'est quand même compliqué à mettre en place. Puis même, je veux dire, au niveau de l'agence standard, loi, etc., c'est compliqué. Mais après ça, comment tu fais pour l'appliquer? Parce que de la programmation, c'est pas physique, tu sais, versus la construction, l'aviation, etc. C'est quand même un avion, tu sais, tu la vois, tu y touches. Du code, puis de penser à tous les scénarios possibles, à toutes les possibilités d'utilisation que ton utilisateur va faire que tu n'as peut-être même pas pensé. Même si tu as une certification, c'est sûr que tu vas manquer quelque chose quelque part. Là.
Ah, ben c'est sûr qu'en construction, c'est clair que les lois de la physique sont permanentes, elles ne changent jamais, contrairement à du code. Ouais. Les lois changent parce que les règles changent parce que un hacker peut faire changer la gravité dans un concept de logiciel, donc ça vient quand même foquer la patente. Dans ce contexte-là, effectivement, on se retrouve avec des adversaires beaucoup plus coriaces que le simple loi de la physique. C'est en ce sens-là où on devrait l'aborder plus sur du warfare, c'est comment les militaires abordent du défensif offensif ou en termes de santé publique, comment les règles de santé publique sont appliquées pour justement la vaccination, les différentes règles qui permettent de façon normalisée puis pour tout le monde sans avoir rentré dans le détail. Il y a comme une zone intéressante à explorer là-dedans. Et le Japon l'a un peu, en tout cas, l'a dit qu'elle allait le faire un peu avec les IoT, où ils décidaient qu'elle allait hacker leurs propres choses dans leur territoire et donc d'appliquer les règles de santé publique finalement, parce que dans son territoire, considère les objets connectés comme étant une menace, donc vont le régler comme un virus pourrait régler un problème. Ouais, un virus réel dans la vraie vie.
Oui, oui, ouais, ce sont d'un virus qui est de eux qui l'attaquent, les IoT.
Et
le s'auto-vaccine. Yes. Non, c'est une bonne approche. Ça reste à voir comment elle va prendre forme officiellement.
Ouais, c'est très difficile, mais de toute façon, on en parle. Mais ultimement, je pense que le modèle de la santé publique est probablement le plus intéressant que j'ai entendu jusqu'à présent. Mais d'une application très, très difficile à faire. Puis c'est peut-être une question de responsabiliser les gens. Si tu es responsable davantage, un peu ce que le RGPD amène, si tu appliques ta responsabilité, tu vas faire plus attention. Quand tes responsabilités n'est pas impliquée, tu fais un peu moins attention aux objets.
Oui, puis il faut que le concept de l'imputabilité arrive aussi dans tout ce concept-là. Si tu mets le standard puis personne ne te tape ses mains, il ne se passera rien.
Effectivement. On va glisser à la prochaine nouvelle qui est au niveau des médias sociaux va générer 3,25 milliards de dollars. J'allais dire millions parce que c'est en anglais. Milliards de dollars pour à chaque année.